On est de retour à nouveau pour une deuxième partie de cette interview où on est ravis de vous recevoir, Nadia, pour nous parler de tas de choses. Avec vous, c'est multiple ce que vous faites dans votre art, vos arts, je ne sais pas comment on peut dire. Et là, on était parti dans la matière noire et dans une mine au Canada, et puis donc qui a un rapport avec l'espace. On est à la fois dans la terre et on a les yeux au ciel, c'est quelque chose comme ça.
Oui, alors c'est parce que les neutrinos, alors c'est une particule qui a la particularité de pouvoir être mesurée et qui nous donne en fait des idées sur est-ce qu'il y a une supernova ou pas à l'univers. Et donc pour par contre bien l'observer, il faut être loin du noise, du bruit.
Du bruit et des parasites qu'on peut trouver sur la Terre, par exemple.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent de l'espace. Enfin, on est entièrement au fait des
poussières. On est bombardés, hein, tout le temps.
Bah oui, on est poussière d'étoiles, en effet, de minéraux, hein, de l'espace. Donc toutes ces choses, voilà, ils nous traversent. Et par contre, le neutrino, il traverse la roche. Et donc là, on peut justement mesurer et faire la recherche. Et donc, suite à cette expérience, voilà, donc on a fait plusieurs expositions.
Des expositions,
et,
oui.
Et donc, je ne me suis pas intéressée à proprement parler de vraiment aux expériences, mais plutôt à l'élément poussière, hein, qui avait aussi
images qui ressortent peut-être
aussi, oui, complètement, oui. Et effectivement aux images fantômes, hein, les images aux images mentales qui nous évoquent voilà cette expérience là
comme un peu quand ça, vous allez dire ça n'a rien à voir peut-être, mais moi je me rappelle qu'avec vous on a parlé aussi quand vous frottez les trottoirs. Il y a aussi la matière là, qui se colle à ce que vous faites et qui nous permettent de voir d'autres images, des images mentales. Surtout que vous choisissez des endroits très spécifiques pour frotter, notamment à Berlin, etc.
Complètement. Mmh. Alors effectivement, là, les toiles qui sont par terre, qui permettent qui sont posées par terre dans un grand espace, c'est des toiles qui étaient réalisées en frottant le sol à Berlin autour d'un bunker.
Mmh. Et, c'est aussi la mémoire, c'est aussi l'histoire.
Complètement. Mmh. Et là, effectivement, l'idée, c'est de s'intéresser à la mémoire oubliée, voilà. De rendre aussi justice aux fantômes.
Et Dieu sait s'il y en a autour de ces bunkers.
Et pas seulement, voilà, il y a quand même beaucoup de côtés de l'histoire qui sont moins connus, puisque l'histoire est racontée de façon linéaire, mais il y a aussi tellement d'histoires particulières, donc des histoires, pas seulement l'histoire avec un grand H, mais aussi les
petites histoires des gens, personnes qui ont vécu la grande histoire.
Oui, ouais. Et c'est peut-être ça que j'avais envie de récupérer comme ça de manière visuelle. Donc ces toiles, ils sont les reliques de cette action et qui existent par eux-mêmes. Mais il y a aussi un rapport sonore après qui développe ça.
Alors justement, on parle de son. Je crois que vous voulez nous lire un petit texte aussi. Hein, je crois que ça fait partie de ce que vous vouliez faire. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais ça ne fait rien, vous reviendrez. Alors, si vous voulez bien, on va passer un peu de lecture.
Peut-être tout d'abord.
En expliquant.
Oui, alors c'est. Effectivement, je ne sais pas pourquoi on est parti sur.
Parce qu'on discute, c'est une interview, on discute.
Oui. Mais je voulais parler d'un projet. Enfin, projet, ce n'est pas le bon terme, je n'aime pas ce mot. Et c'est. Je voulais parler d'un travail que je fais ici au jardin de Montpellier.
Oui, le jardin des plantes de Montpellier.
Voilà. Et j'ai suivi l'histoire d'une plante qui pousse, qui s'appelle Sisyphus. Et j'ai écrit un texte à la première personne. Et,
vous représentez la plante ? Vous incarnez dans la plante, on peut dire.
Alors, ça devient une fiction, ça fait 16 pages, je ne pourrais pas tout lire. J'avais juste envie de lire le début et peut-être la fin.
Et, voilà. Et ceux qui veulent en savoir plus, il faudra qu'ils aillent au jardin des plantes.
Oui, alors ils ne le trouveront pas assez facilement. Vous comprendrez pourquoi. Mais je vais faire une expo autour de cette plante dans une galerie à Paris qui s'appelle Anne Plus, qui me représente. Et j'en ai déjà fait en Allemagne, mais pas en France encore. Et c'est pourtant une plante qui pousse ici.
On vous écoute.
Sisyphus. Aussi loin que je me souvienne, j'aurais toujours poussé ici, sur cette partie reculée de la Terre, créant sans cesse les conditions de nouvelle germination, où le vivant se montre au-dessus de toute injonction, s'épanouissant dans un ordre non stérile et audacieux. En 1593, le sol sur lequel je me développe et m'épanouis deviendra le jardin botanique de Montpellier. Le jardin de plantes sera fondé par le botaniste français Pierre Richer de Belval. Il créera le jardin sur l'ordre de Henri IV, le roi de France. Le jardin de plantes de Montpellier sera l'un des plus anciens jardins botaniques d'Europe, aux côtés de l'Orto Botanico di Padova, le jardin botanique de Padoue en Italie, qui aura débuté deux générations plus tôt. Le jardin des plantes de Montpellier comprendra plus de 2500 plantes et s'étendra sur près de 5000 hectares à proximité du centre-ville. Conforté par le climat chaud et méditerranéen du sud de la France, le jardin deviendra un espace d'une beauté naturelle et étonnante. Le site, avec ses étangs, son arboretum et ses espaces paysagers, sera la propriété de l'Université de Montpellier et servira de l'étude et de la recherche. Je pousserai dans l'école systématique du jardin, à côté d'un arbre du Judée, le Cercis siliquastrum, planté par le fondateur du jardin, d'un majestueux Filaria latifolia, planté en 1620, et d'un ginkgo biloba, qui sera planté ici en hommage à la Révolution française en 1795. Au milieu de toutes ces plantes spectaculaires, et n'étant même qu'un petit arbuste épineux, je n'attirerai pas trop de l'attention. En fait, on me remarquera à peine. En poussant ici, dans un coin reculé de la planète, dans le jardin botanique de Montpellier, je resterai confiant de la longue vivité et la pérennité de ma famille. Je sais que nous serons les survivants de l'histoire. À un moment donné, la lignée et l'origine de ma famille seront un objet de curiosité, voire de mystère. Certains membres de ma famille auront leur heure de gloire et inspireront des portraits peints par des artistes de renom. Nous apparaîtrons dans des poèmes, des essais et sur des médaillons et nous serons acclamés dans la littérature religieuse et médicale. Nous continuerons à exister sans relâche. Nos fruits seront transportés d'étang en étang, d'oasis en oasis, avec des milliers de kilomètres entre un habitat approprié et le suivant. Nous serons l'exemple parfait de ce que les botanistes et les écologistes entendront par le terme « espèce cosmopolite ». Grâce à notre ténacité, à notre volonté d'adaptation, parce que nous ne sommes pas vraiment natifs d'un endroit, mais chez nous, presque partout, je vous parlerai moins du passé et beaucoup plus de l'avenir de notre planète. J'utilise le terme « espèce » pour me nommer, mais cela ferait partie de votre langage, pas du mien. Ce mot n'apparaîtra écrit sur aucun arbre ou animal. Je serais née il y a 350 millions d'années et je n'aurais pas besoin de ce mot. La vie continuera toujours à être instable. Je devrais faire preuve de polyvalence, d'ingéniosité et de souplesse. Je m'associerai à des compagnons inattendus et les remplacerai peut-être. Et je déménagerai. Je m'associerai sans point de départ et je resterai dans des zones de contact omniprésentes. J'essaierai un perpétuel changement. Devenir avec ou ne pas devenir dans un va-et-vient constant sera toujours le nom du jeu. J'aurai couché à droite et à gauche et l'admets volontiers. Mes enfants seront nombreux. Dans les profondeurs du temps, à distance de ma propre naissance, je viendrai à me considérer comme un post-spécimen, comme une continuité, comme le poisson et l'homme qui apparaîtrait comme un vaste organisme vieillissant, un morphing, si vous voulez, une diversification ou un appauvrissement. Mais une survie, du moins pour moi, mais pas pour les autres. Alors voilà, j'ai traduit un peu en direct de l'anglais, donc je préférais de vous inviter à l'exposition à Paris, en mars, pour écouter l'histoire entière et surtout de voir en fait ce que je fais de ça, parce que c'est juste une première étape pour faire des images, voilà. Des tableaux.
Et on a bien compris que c'était des extraits, on a parfaitement compris que vous lisiez, parce que c'est compliqué, que ce texte était à l'origine en anglais et que vous l'avez traduit, donc c'est un exercice très difficile, mais donc à l'exposition ça sera complètement, ça sera linéaire. Ça sera...
Je me sors, je serai entraînée, voilà. Entre-temps.
Et bien voilà, vous êtes venu à Divergence FM pour faire un peu d'entraînement.
Moi je trouvais ça pas mal ici, je trouve ça très beau, voilà. Comme ça, c'est très feutré. Comme...
Voilà, bah, c'est le studio, hein, on n'est pas comme tout à l'heure enfermé dans des caves ou dans des mines, hein, mais on a quand même ce son un peu mat, hein, du studio. Alors écoutez, on arrive doucement à la fin de cette interview. Mais comme je dis au début, je pense qu'il va falloir qu'on vous invite parce qu'il y a tellement de choses à raconter que les auditeurs de Divergence ont certainement envie de savoir un peu plus. Puis il y a le jardin des plantes. Et puis vous faites aussi du son, de la musique.
Oui.
Alors ça en fait des choses à nous faire découvrir.
Oui, je vous donnerai des morceaux à faire passer.
Ben voilà.
Et c'est vrai que je pris un risque. J'avais envie de tester, d'enregistrer ce texte.
Ben c'est voilà. Très bien. C'est très bien. En tout cas, on est ravis de vous recevoir et on espère vous recevoir à nouveau.
Merci beaucoup.
Au revoir, Nadia.